les grands titres de ce jeudi 19 avril. Le premier ministre Malcolm Turnbull affirme que l'Australie ne tolérera aucun geste illégal de la part de la Russie. Le président américain Donald Trump continue de mettre la pression pour que la Corée du Nord se dénucléarise. Et en France, on est en plein cœur d'une semaine de débats parlementaires sur la loi Asile et immigration. Le premier ministre Malcolm Turnbull a dit que l'Australie ne tolérerait aucun geste illégal de la part de la Russie. Il a fait cette déclaration devant les leaders britanniques, canadiens et néo-zélandais à Londres lors d'une rencontre des dirigeants du Commonwealth. Ils ont ainsi discuté de cybersécurité et des récentes attaques chimiques en Grande-Bretagne et en Syrie. Malcolm Turnbull a dit vouloir s'assurer que les Australiens soient protégés des interférences russes sur le web.
We are taking every step that we can with our foreign interference legislation to ensure that Australians and Australians only are the ones who influence Australian political processes. We make no apologies for and will not take a backward step from standing up for Australians.
Malcolm Turnbull affirme que l'Australie a une relation solide avec la Chine, malgré des rumeurs comme quoi les relations commerciales entre les deux pays seraient menacées. L'ambassadeur chinois en Australie, Cheng Jingyi, a dit au journal The Australian que si la méfiance de l'Australie envers la Chine continuait, il pourrait y avoir un impact sur leurs relations commerciales. L'Australie s'apprête à introduire de nouvelles lois qui interdiront les dons politiques venant de l'étranger. L'ambassadeur Jingyi a rejeté les suggestions comme quoi la Chine essayait d'interférer en politique australienne. La sénateur travailliste Penny Wong a dit à Sky News que le gouvernement devait s'assurer de maintenir de bonnes relations avec la Chine.
I think we need to become better at managing difference. The government needs to become better and less clumsy at managing differences in the relationship. I mean, it's not a new thing for Australia's national interest to be different to China's national interest. I mean, that has historically been so and will be continued to be so over time. There'll be times we agree and there'll be times we disagree.
La députée libérale Suzanne Lee va introduire un projet de loi pour supprimer progressivement l'export de moutons vivant vers le Moyen-Orient. On se rappelle que plus tôt ce mois-ci, une vidéo a été rendue publique révélant que 2400 moutons étaient morts dans un navire en direction du Moyen-Orient en 2017. Le Conseil sur l'export de bétail vivant a depuis voté pour créer un poste d'inspecteur, mais Suzanne Lee ne croit pas que ce sera assez. Elle a dit à Sky News qu'elle allait présenter le projet de loi au Parlement après le budget.
I recognize that this needs to be done in consultation with farmers and the industry, because the farmers in my mind will always come first. Having been a farmer for 17 years, having represented rural Australia and sheep producers, I've got to say, if I'm calling time on this industry, I think time is well and truly past.
Passons à l'international maintenant. Le président américain Donald Trump a dit qu'il continuerait de mettre la pression pour que la Corée du Nord se dénucléarise. Il a aussi confirmé que le patron de la CIA, Mike Pompeo, avait rencontré Kim Jong-un la semaine dernière. Les présidents américains et nord-coréens se sont mis d'accord pour se rencontrer, probablement en mai ou en juin. Donald Trump a dit qu'il s'attendait à ce que cette rencontre soit positive pour tous.
Hopefully that meeting will be a great success and we're looking forward to it. It would be a tremendous thing for North Korea and a tremendous thing for the world. So, we will be doing everything possible to make it a worldwide success, not just for the United States or South Korea or North Korea or Japan, but for the entire world.
C'était le président américain Donald Trump. Un sommet entre la Corée du Nord et du Sud doit avoir lieu d'ici la fin du mois dans l'espoir que la Corée du Nord stoppe la possession et la fabrication d'armes nucléaires. En France, on est en plein cœur d'une semaine de débats parlementaires sur la loi Asile et immigration. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a dit clairement vouloir faire baisser l'immigration. Il réclame même un référendum sur la question migratoire. Anne Souhaitemont de RFI nous en dit plus.
Il faut dire les choses très simplement. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse.
Exit les tabous. Les républicains de Laurent Wauquiez ne veulent désormais plus maîtriser l'immigration, mais bien la faire baisser.
Il rentre chaque année trop d'immigrés en France. C'est cette réalité à laquelle nous nous heurtons.
En guise de réponse, Laurent Wauquiez propose une révision du droit du sol, du regroupement familial, l'expulsion sur 5 ans de 300 000 irréguliers, des propositions qu'il soumettrait s'il était en responsabilité à référendum.
Ce n'est pas aux passeurs, ce n'est pas aux juges de décider qui entre en France, c'est aux Français de le décider.
Merci. Une manière d'empiéter encore une fois sur les plates-bandes de Marine Le Pen, une convergence assumée par Gilles Platret, porte-parole des Républicains.
Que ça fasse écho à ce que disent certains autres, peut-être, mais c'est pas parce qu'un camion de pompier est rouge et que Madame Le Pen dit qu'il est rouge que le camion de pompier est vert. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que pensent les Français et les solutions qu'on peut leur apporter.
Selon un sondage IFOP Fiducial, si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, Laurent Wauquiez recueillerait 8% des voix contre 23% pour la présidente du Front National.
Le discours de Wauquiez a choqué plusieurs députés, dont la macroniste Sandrine Croche, qui a partagé son histoire familiale.
Expliquez-moi peut-être à quoi ça sert de diviser une famille. Je ne comprends pas votre logique. Si on accorde la protection de réfugié à une personne, on ne va pas laisser son conjoint dans une situation précaire. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas cette peur panique de l'étranger. Je vous rappelle quand même qu'au moment de la retirada, donc l'exil des Espagnols, pendant Franco, les Luchonnais qui recevaient donc ces masses d'Espagnols pensaient que les Espagnols mangeaient les nouveau-nés, ok? Maintenant, un Toulousain sur deux est espagnol, quasiment. Quand ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère ont débarqué dans un village à 800 km de leur ville parce que c'était l'exode devant les Allemands, qu'est-ce qui s'est pas dit dans le village à l'époque? C'est les mêmes peurs paniques que celles que vous développez. C'est la honte, c'est tout.
C'était la députée macroniste Sandrine Croche. À Cuba, le vice-président Miguel Díaz-Canel a été désigné pour succéder à Raúl Castro à la tête du pays. C'est la première fois en 60 ans que ce n'est pas un Castro qui sera président. Romain Lemaresquier a les détails.
Cette annonce confirme ce que tout le monde pensait depuis des mois, voire des années. Il faut dire que cette candidature est logique si l'on s'en tient à la constitution cubaine. Miguel Díaz-Canel était jusqu'à présent vice-président du Conseil des ministres et du Conseil d'État. Il devrait logiquement être désigné président de la République de Cuba pour les 5 prochaines années. Outre la présidence, d'autres désignations étaient prévues ce mercredi. Le poste de président de l'Assemblée cubaine a ainsi été attribué à Esteban Lázaro Hernández, un afro-cubain. Et c'est une femme qui a été élue au poste de vice-présidente de cette Assemblée. Il s'agit d'Ana Maria Mari Machado. Les deux ont été élus avec 100% des voix, des choix qui ne sont pas anodins ici à Cuba. Par ailleurs, il faut souligner tout de même une chose, ce processus d'élection et de désignation ne passionne pas les Cubains qui ne s'attendent pas vraiment à des changements, en tout cas à court terme. Le retrait de la vie publique de Raúl Castro a tout de même son importance. Cela marque la fin de la génération historique de la révolution cubaine à la tête de l'État. Désormais, comme disent les Cubains, place à la jeunesse. Mais cette jeunesse est toute relative car celui qui est pressenti pour être désigné comme président fêtera tout de même ses 58 ans vendredi prochain. Un futur président qui devra se plier comme de coutume aux directives du Parti communiste, un parti qui restera encore dirigé par Raúl Castro et ce jusqu'en 2021.
C'était Romain Lemaresquier pour RFI. Dans quelques instants, on passe au sport avec Jean-Noël Ducasse, mais juste avant, on jette un coup d'œil à la météo. Aujourd'hui à Perth, un maximum de 21 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 23, Hobart 18, Canberra et Wollongong 24, Sydney 26, Newcastle 25, Brisbane 26, Cairns 30 et à Darwin 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 19 avril. Le premier ministre Malcolm Turnbull affirme que l'Australie ne tolérera aucun geste illégal de la part de la Russie. Le président américain Donald Trump continue de mettre la pression pour que la Corée du Nord se dénucléarise. Et en France, on est en plein cœur d'une semaine de débats parlementaires sur la loi Asile et immigration.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench